Il y a quelques années de cela, si j'avais dû prêcher ce matin, j'aurais apporté, je pense, peut-être ma pensée. J'avais à cœur un sujet que j'aborderai certainement cet après-midi. Dans l'évangile de Jean, écoutez, vous allez comprendre ce que je veux vous dire. Dans l'évangile de Jean, il n'y a que 8 miracles. Et je me suis rendu compte que le premier avait le même enseignement que le 8e. Le deuxième a le même enseignement que le 7e. Le 3e que le 6e. Et le 4e a le même enseignement que le 5e. Je ne sais même pas si l'apôtre Jean l'a fait exprès. Mais ça nous prouve une fois de plus que toute la Bible est inspirée. J'aurais aimé vous faire, entre guillemets, ce cadeau. Nous le ferons peut-être, je vous dis, cet après-midi en partie. Et lorsque j'ai prié cette semaine, j'ai pensé qu'il y avait quelque chose de plus utile que de vous partager quelque chose de très intéressant. Nous allons fêter Noël, des milliards de gens vont aller célébrer la fête de minuit, la messe de Noël, etc. Pour eux, ils ne rateraient ça pour rien au monde. On l'a déjà entendu, moi, pour rien au monde, je ne raterai la messe de minuit. Vous l'avez déjà entendu ça? Mais enfin, dans l'année, il n'y a pas qu'un jour, il y en a 365. Et il faudrait savoir ce que font les gens des 364 autres jours. Nous avons des prophéties merveilleuses qui datent depuis 2500, 2700 ans dans l'Ancien Testament, qui nous rappellent que lorsque le Seigneur Jésus viendra, on lui donnera certains noms. Entre autres, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, prince de la paix, il a manqué. Père éternel. Merci, Madame Domingos. Ces cinq attributs, il y en a 150, hein, mais ces cinq attributs sont tous mis ensemble dans Ésaïe au chapitre 9 pour nous expliquer que Dieu est tout-puissant. Vous êtes d'accord? Si Dieu est tout-puissant, ça veut dire qu'il peut tout, qu'il sait tout. Ça veut dire, si on peut l'appeler Père éternel, cela veut dire, c'est un des plus grands bienfaits qu'un homme peut avoir sur la terre, de pouvoir appeler le Créateur des ciels Père éternel. Mais voilà. Célébrer la naissance de Jésus, c'est extrêmement joyeux et utile. Mais avoir un Dieu grand, si, de notre côté, il y a des obstacles à la prière, ça vaut la peine quand même de réfléchir. Alors j'aimerais qu'on fasse une lecture dans Romains, au chapitre 12 et au verset 9, qui nous enseigne qu'il faut nous éloigner du mal. Les dons spirituels ont rappelé que nous avions tous un choix à faire, tous. Et l'Apocalypse termine avec cette intelligence, cet avertissement, que celui qui est saint se sanctifie. Que celui qui se souille, se souille. C'est d'une clarté totale. Ça s'adresse à l'Église. Il y a ceux qui veulent marcher dans la sainteté, que ton nom soit sanctifié. Et il y a ceux qui jouent les hypocrites et qui continuent à se souiller. Dans Romains au chapitre 12, j'ai pris ce texte, j'avais que l'embarras du choix, au verset 9. On va lire jusqu'au verset 21, parce qu'il y a la solution dans le verset 21. Nous allons donc lire ce texte, je vous demande de le lire avec beaucoup d'attachement. Romains 12, verset 9, « Que l'amour soit sans hypocrisie, ayez le mal en horreur. » Il y a beaucoup d'enseignements sur le mal dans la Bible. « Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. » Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Vous êtes polis envers les uns, envers les autres, envers vos enfants, envers vos conjoints. Les prévenances réciproques, c'est beau dans une maison quand les gens sont polis, oui ou non? Ayez du zèle et non de la paresse, soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière, pourvoyez aux besoins des saints, exercez l'hospitalité, bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. Vous êtes d'accord avec ça? On continue. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Est-ce que c'est facile? Mais non, ce n'est pas toujours facile ça. Et pourtant, c'est ce qu'il faut faire. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres, n'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux, ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimé, mais laissez agir la colère, car il est écrit « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur ». Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire, car en agissant ainsi, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Amen. Tu amasseras. La première fois que j'ai lu ce texte, je dis, qu'est-ce que ça veut dire? Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger, donne-lui à boire, en agissant ainsi, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête. Vous savez ce que ça veut dire, ça? Beaucoup de gens ne le savent pas. À l'époque, il n'y avait pas beaucoup d'électricité. Il n'y avait pas de micro-ondes, vous êtes d'accord avec moi? À l'époque, il y avait que des feux de bois, des cheminées. Et il pouvait arriver le matin, quand vous vous leviez, qu'il n'y ait plus de cendres dans le foyer. Donc, on allait chez les voisins et on prenait dans une coupe, en acier, etc., en bois, enfin bois costaud, hein, des braises pour le ramener dans le foyer. On ramenait le feu, la chaleur, l'éclairage dans la maison. C'est ça que ça veut dire. Les gens s'imaginent qu'on met des braises sur la tête des gens. C'est ça que ça veut dire. Mes frères et sœurs, ce petit texte que nous venons de lire en dit long sur l'importance de bénir les autres. Célébrer Noël, moi je peux vous le faire, c'est quelque chose qui m'agrée, c'est quelque chose que j'aime, parler de la naissance de Jésus jusqu'à sa mort et sa résurrection et sa gloire et tout ce qui nous attend à nous. Mais mes frères et sœurs, soyons sérieux. On est devant Dieu, Dieu nous exhorte à travailler à notre salut. Et un chrétien peut perdre le salut. Quand Jésus dit à l'Église de la fin que celui qui se souille encore, je pense qu'il parle des chrétiens qui sont dans une telle hypocrisie, tel éloignement, qui sont perdus. Et beaucoup de textes dans la parole de Dieu nous montrent que l'on peut perdre le salut parce que on est aveuglé. Si vous réécoutiez après ce que je vais vous dire, les prophéties que vous avez entendues, vous diriez, mais c'est exactement ça. Combien de gens ne réalisent pas qu'ils font le mal? C'est écrit dans la Bible. Ils ne savent pas qu'ils font le mal. Écoutez-moi, mes frères et sœurs. Ça peut vous concerner, ne dites pas oui, c'est bien, ou ça c'est vrai, c'est pour Albertine. Non, écoutez-moi. Nous devons savoir dans notre âme si ce que nous faisons est mal. David, lorsqu'il a été repris par Nathan, va dire « J'ai fait ce qui est mal à tes yeux ». Il savait ce qui était mal, aux yeux de Dieu. Et nous qui sommes là ce matin devant Dieu, nous devons savoir ce qui est mal. Parce que, on va faire une autre lecture, dans 1 Pierre, c'est aussi écrit dans l'Ancien Testament, dans 1 Pierre, lorsque justement l'apôtre s'adresse aux hommes, aux femmes, à nos comportements qu'on doit avoir avec les enfants, avec les autorités, avec les employeurs, avec les employés, etc. Il y a tout un tas d'exhortations, avec les frères et sœurs, avec les inconvertis, avec les serviteurs de Dieu. Il y a tout un tas d'exhortations. Et l'apôtre continue à la fin du verset 7 en disant, mais qu'il en soit ainsi. 1 Pierre 3, verset 7, la dernière phrase, « Afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. » Mes frères et sœurs, Dieu a institué la prière, ce n'est pas pour qu'on prie. Je l'ai dit 50 fois. Dieu a institué la prière pour que nos prières soient exaucées. Vous voulez que vos prières soient exaucées? Sérieusement, mais vous vous rendez compte, je l'ai déjà dit l'autre jour, mais justement, je m'applique à le faire. Paul, c'est Pierre qui disait aussi, je m'applique à répéter les mêmes choses parce que cela est salutaire. Mes frères et sœurs, vous vous rendez compte si vous vous présentez un jour devant Dieu et que le Seigneur doive vous dire, tu as prié pour rien. Tu ne savais même pas que tu faisais le mal. Et aujourd'hui, nous le voyons. Il y a des gens, ils ne se rendent même pas compte qu'ils font le mal. Mais c'est vrai que les dons spirituels parlaient de cécité, de surdité. Et c'est grave, on a l'impression toujours, bien sûr, que c'est pour les autres. Mais imaginez, mon frère, ma sœur, que le Seigneur te dise d'une manière personnelle tes prières, je ne les écoute pas. Oui, tu vas célébrer la naissance de Jésus. Oui, tu vas célébrer, etc., etc., toute la gloire de mon nom et ce que j'ai fait sur la terre, etc., etc., etc. D'accord. Mais franchement, vous n'avez pas envie, lorsque vous vous recueillez dans votre chambre, dans votre bureau, ou n'importe où, que vos prières soient entendues et exaucées. Il faut que nous sachions ce qui est mal. Et nous devons surmonter le mal par le bien. Chacun d'entre nous, nous devrions avoir des oreilles spirituelles, des yeux spirituels et un cœur spirituel pour dire, mais Seigneur, dis-moi ce qui est mal. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Les yeux de Dieu, le regard de Dieu. Et vous savez, il y en a un qui est fort, rusé, plus que ce qu'on pense pour nous aveugler, pour nous empêcher de voir, pour nous empêcher d'entendre Dieu nous parler. Il est rusé, le diable, plus que ce qu'on pense. Et il sait attendre. Regardez, je pensais ce matin à David. Il a attendu qu'il soit vieux. Il a attendu qu'il soit vieux. Parce que des frères de Goliath avaient un précédent avec lui. Et ils ont attendu. D'ailleurs, le premier frère de Goliath est né, s'appelait Jisbi Benod. Et Jisbi Benod, ça veut dire il est patient. Et le diable, croyez-moi, il est patient. Et heureusement que David, ce jour-là, parce qu'il était vieux, plus vieux que Lucas, il avait ses amis à côté de lui. Alléluia. Vous avez des amis qui vous protègent? Vous pouvez dire à quelqu'un, prie pour moi, protège-moi. Parce que quand vous demandez à quelqu'un de prier pour vous, vous pouvez être sûr qu'il vous protège. Quand Salomon, lui, je ne pense pas, vu l'état dans lequel il est, qu'il avait des amis. Parce qu'il est dit qu'à l'époque de sa vieillesse, qu'est-ce qui s'est passé, vous savez? Qu'est-ce qui s'est passé à l'époque de la vieillesse de Salomon? À l'époque de la vieillesse de Salomon, les femmes détournèrent son cœur. Cet homme qui avait reçu la sagesse telle que personne d'autre l'a reçue, le diable, il a attendu avoir un moment faible. Mes frères et sœurs, je ne sais pas où vous en êtes, mais Dieu, il le sait. Alors lisons ce texte, où il dit, mais qu'il en soit ainsi. Regardez, on va lire ce qui nous intéresse, verset 9. C'est surtout pour le verset 12, mais quand même, mes frères et sœurs, nous devons savoir si quelque chose fait obstacle à la prière, si je fais le mal, si je parle mal, si je fais des choses qui sont mauvaises dans ma maison, au travail, etc. Pourquoi ? On va le lire. Ne rendez pas le mal pour le mal, ou l'injure pour l'injure. Bénissez, au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, ça fait partie de notre vocation cette affaire. Afin d'hériter la bénédiction. Je coupe. Qui c'est qui a envie d'hériter la bénédiction? Sérieusement. Est-ce que vous avez envie d'hériter la bénédiction? Mais vraiment, est-ce que vous vous rendez compte? Il y a des comportements qui amènent la bénédiction. C'est Dieu qui bénit. Toute grâce, tout don parfait descende d'en haut. Et le Seigneur le dit d'une manière simple, si on agit de telle manière, nous obtiendrons la bénédiction. Si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve, regardez bien, et ça vaut la peine de relire tous les textes sur le mal, qu'il préserve sa langue du mal. On peut faire du mal avec la langue? Qu'est-ce qu'on peut faire avec la langue? On peut tuer. Les gens du temps de Jérémie l'avaient compris. Ils ont dit, ils se sont récoltés, les amis, des amis vachement bien. Et ils ont dit, tuons-le avec la langue. Qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses. Mes frères et sœurs, c'est ça l'évangile. Je fais attention à ce que je dis. Je préserve ma langue du mal. Mais ce n'est pas fini, regardez, verset 11. Qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien. Qu'il recherche la paix et la poursuive. Dans une église, je crois qu'il n'y a rien de plus beau quand tous les chrétiens se procurent la paix. Car les, regardez bien la conclusion. Car les yeux du Seigneur sont sur les justes. Les justes, ce ne sont pas les chrétiens. Ce sont les chrétiens qui obéissent. Et les méchants, ce sont ceux, c'est les chrétiens qui obéissent pas. C'est comme ça. Et croyez-moi, je n'exagère pas. Les yeux du Seigneur sont sur les justes. Ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Et, et ce que je vous dis, regardez dans 1 Pierre 4, parce qu'il y a des chrétiens qui ne le croient pas. Il y a des chrétiens, ils s'imaginent que les méchants, ce sont des inconvertis. Non, dans la Bible, les méchants, ce sont les chrétiens qui vivent dans l'impiété. Regardez 1 Pierre 4, verset 18. C'est très très bien expliqué dans ce verset par une question en plus. Les questions, on devrait avoir le mérite de nous faire réfléchir toutes. Ben ça, c'est pas sûr que ça soit le cas. 1 Pierre 4, verset 18. Si le juste, donc le chrétien, qui obéit, qui pratique la justice, c'est ça, le juste, c'est un chrétien qui obéit, se sauve avec peine, c'est-à-dire avec travail. On le dit souvent, oh, qu'est-ce que je peine dans mon travail? La peine, c'est un travail, ce qu'on est censé faire ce matin. Que deviendront l'impie et le pécheur? Le pécheur, c'est bien, ça c'est l'inconverti. Mais l'impie, c'est le chrétien qui n'a pas de piété. Est-ce que vous comprenez, mes frères et sœurs? C'est archi important, c'est archi grave. Il y a des chrétiens qui font le mal, qui parlent mal. Oh, mais t'as, c'est mon caractère. Oh, c'est pas grave, c'est ma façon de parler, on m'a appris comme ça. Mais qui t'a appris à parler comme ça? Qui t'a appris à être désagréable avec ton mari, avec tes enfants, avec ton patron? Ouais, mais si tu savais ce que je me traîne en ce moment, ben tu ferais peut-être pareil. Mais ça, c'est pas l'esprit de la croix, ça. Et après, on en arrive à des constats comme cet homme un jour que j'ai croisé dans la rue qui me dit « Mais ça fait 17 ans que Dieu n'exauce pas mes prières. » Et j'ai dit « Mais ça ne vous fait pas réfléchir ?»« Ah, mais c'est la faute. » »« Mais bien sûr, la faute, c'était sa femme. » En principe, il faut toujours un truc. J'ai dit « Mais ça ne vous fait pas réfléchir ?» Ça fait 16 ans, ça faisait 16 ans. Ça fait 16 ans que Dieu n'exauce pas vos prières et vous ne réfléchissez pas. Le juste, c'est le chrétien qui obéit. L'impie, c'est le chrétien qui n'obéit pas. Le Seigneur a les yeux sur les justes et ses oreilles sont attentives. Et la face du Seigneur, elle est contre ceux qui font le mal. Mes frères et sœurs, nous devons être archi sérieux avec cette affaire. Parce que le problème, écoutez-moi bien, frères et sœurs. Vous savez, moi j'aurais préféré apporter quelque chose de beaucoup plus intéressant. Et il faut que j'apporte quelque chose d'utile pour le salut de nos âmes. Un chrétien peut perdre le salut. C'est vrai que l'apostasie a infiltré dans le royaume de Dieu le fait qu'il y avait la sécurité éternelle et qu'on ne pouvait pas perdre le salut. C'est une doctrine qui vient de l'enfer. C'est une doctrine de démons. Des pans entiers de l'Église tombent à cause de la doctrine de la sécurité éternelle. Je vous assure que c'est... malheur aux pasteurs. Et si vous faites partie, là, les pasteurs qui m'écoutez, moi je vous dis malheur à vous, qui enseignez qu'on ne peut pas perdre le salut. Mais c'est archi grave, mes frères. Un chrétien, il peut perdre le salut. On va voir ce texte d'un de Pierre. Comment il le perd? Parce qu'il est charnel et il ne règle pas cette affaire-là. Regardez d'un de Pierre, au chapitre 2, et au verset 19, il parle de ces faux docteurs qui promettent bien sûr la liberté à tout le monde, la paix à tout le monde, etc. Regardez bien. Regardez, mes frères et sœurs, je ne sais pas où vous en êtes, mais Dieu sait. si vous êtes charnel et si vous êtes en train de basculer dans l'impiété. 2 Pierre, chapitre 2, verset 19. Ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. En effet, regardez bien, si après s'être retiré des souillures du monde, par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, s'ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition, en plus ça s'aggrave, est pire que la première. Ça veut dire qu'un chrétien, quand il rétrograde, il redevient pire qu'avant. Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de l'avoir connue et de se détourner du saint commandement qui leur avait été donné. Il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai, le chien est retourné à ce qu'il avait vomi et la truie lavée s'est vautrée dans le bourbier. C'est pour ça que dans la Bible, il est dit dors les chiens. Les chiens, si vous avez un petit toutou, gardez-le. Mais les chiens, dans la Bible, ce sont les chrétiens qui ont rétrogradé et qui... Parce qu'un chien, il a la délicatesse d'aller manger ce qu'il a vomi. Oui, c'est très gracieux. Mais enfin, ça explique ce qui se passe. Mes frères et sœurs, un chrétien, il peut perdre le salut. Et si Dieu m'a mis à cœur ce sujet ce matin, je sais qu'il y a des milliers de gens qui m'écoutent sur le site. Mais mes frères et sœurs, il se pourrait quand même qu'au milieu de nous, il y ait des chrétiens qui ne soient pas nets avec Dieu. On va lire un autre texte qui est mal compris, c'est dans Hébreux. Dans Hébreux, c'est un verset que beaucoup de chrétiens ne comprennent pas. Parce que les chrétiens ne tendent pas ce qui est parfait, comme c'est écrit dans Hébreux chapitre 6 au verset 1er. Les chrétiens ne s'appliquent pas. On peut faire des progrès dans la perfection. Est-ce que la Bible parle souvent de la perfection? Oui. On peut faire des progrès. Et quand un chrétien dit, oui, mais la perfection, ce n'est pas de ce monde. La perfection, vous savez, c'est vite fait de rabaisser le niveau. Vous pouvez, nous devons faire des progrès. Vous en faites des progrès? La fin de l'année arrive, est-ce que vous pouvez dire, en 2018, j'ai fait des progrès? Est-ce que votre femme peut dire, chérie, tu as fait des progrès? Je ne sais pas dans quel sens, mais tu as fait des progrès. Hébreux chapitre 6, verset 4. Regardez bien ce verset. Regardez bien, mes frères et sœurs. Ce sont des paroles peut-être un peu difficiles, mais il faut les expliquer. C'est mon devoir de vous les expliquer. Il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir. Donc ça, c'est des chrétiens, oui ou non? Mais c'est clair, c'est sûr. Et qui sont tombés, soit amenés encore et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Lorsqu'une terre abreuvée par la pluie, qui tombe souvent sur elle, produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. Mais si elle produit des épines et des chardons, elle est réprouvée et près d'être maudite, et on finit par y mettre le feu. Amen. Alors, je vais prendre un exemple pour que vous expliquiez bien. Attends, on va prendre dans Hébreu. C'est dans... Oui, Hébreu, regardez, Hébreu 9. Je suis bouddhiste, d'accord? C'est une image, hein? Je suis bouddhiste, j'ai grandi dans la... Mes parents étaient bouddhistes, j'ai grandi dans cette philosophie religieuse. Et un jour, quelqu'un m'offre la Bible et je tombe sur le verset d'Hébreu 9, 27. Vous êtes avec moi? Je tombe sur ce verset, je lis la Bible avec mon cœur ouvert et je suis bouleversé. Moi qui crois dans le karma, c'est-à-dire dans la réincarnation. Vous savez que dans la religion bouddhiste, on ne meurt pas, on se réincarne. On se réincarne, on peut se réincarner 500 fois, 800 fois, et on fait où on fait des progrès, on régresse jusqu'à ce qu'on appelle le nirvana, et là on revient sous une forme de Dalai Lama. Le Dalai Lama, c'est un dieu sur terre, quelqu'un qui s'est réincarné, qui est devenu parfait. Mais je croyais dans la réincarnation, et puis je suis convaincu par le Saint-Esprit, Hébreux 9, 27, et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Ah bon, mais on ne vit qu'une fois. Alors c'est comme ça que je blague quand je dis que je suis bouddhiste. Je suis convaincu de péché. On ne vit qu'une fois. Après quoi, on devra passer devant Dieu. Mais le temps passe et je me réinforme sur sur le bouddhisme. Tiens, mais au niveau de la... Écoutez bien, je suis sérieux. Hein. Oh, tiens, mais au niveau de la sexualité, c'est quand même plus intéressant la doctrine bouddhiste. Etc. Et je reviens à mon hindouisme. Et je ne pourrai jamais aller au ciel en étant dans ma religion. C'est pour ça qu'il est dit, il crucifie pour leur part le Seigneur Jésus. Un rétrograde, s'il veut revenir à Dieu et s'il veut être sauvé, il faut qu'il repasse par le calvaire. Et ne nous imaginons pas un instant que c'est une religion qui va nous sauver. J'abandonne l'évangile parce que moi, la croix, ça me convient pas, le renoncement. Je préfère, parce que quand vous regardez les doctrines des autres religions, enfin religion entre guillemets, laissez-moi vous dire que certaines sont très intéressantes. Donc si j'abandonne Dieu et que j'imagine que je peux aller au ciel en revenant à ma religion, c'est impossible. Si vous êtes rétrograde, il faudra repasser par le calvaire. Alors comment ça se fait? Comment ça se fait que des gens charnels, parce que mais quand on est charnel, monsieur Gon, on ne perd pas le salut? Ah là, c'est une question. Là, c'est des vraies questions. Il y a quand même des textes qui nous montrent bien que si on est charnel, on ne perd pas le salut. Mais oui, mais c'est vrai. Vous vous rappelez les Corinthiens? Les Corinthiens, ils ont commencé à comparer les ministères dans l'Église. Il y en avait qui étaient pour Paul, il y en avait qui préféraient Pierre, et il y avait les supraspirituels, bien sûr, qui préféraient Jésus. Mais enfin, le Seigneur le présente comme de la jalousie, des rivalités. Et il continue, il va l'expliquer, il va parler de la façon dont ils sont charnels. Alors on va quand même le lire, parce que c'est important de voir quand on peut basculer du charnel à l'impiété. Dans 1 Corinthiens, mes frères et sœurs, je voudrais être vraiment pratique. Je suis persuadé que beaucoup d'églises ne vont pas bien parce que les prédications ne sont pas pratiques. Et je voudrais que vous soyez pratiques. Dans cette église, il y a des rivalités, voyez, 1 Corinthiens 1, verset 11. J'apprends à votre sujet, par les gens de Chloé, qu'il y a des rivalités au milieu de vous. Il a appris par les chrétiens d'une autre église. Bon. Et il leur explique, il leur donne la solution. Chapitre 3. Il faut lire ces choses. Je ne sais pas si vous méditez. Parce que vous savez lire la Bible, c'est une chose, la méditer, c'en est une autre. 1 Corinthiens 3, verset 1er, « Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des enfants charnels, comme à des enfants en Christ. » Voilà, ils ne font pas de progrès. Si vous ne faites pas de progrès, c'est que vous êtes un enfant spirituel. Acceptez-le, ne vous traumatisez pas, ne dites « Oh, monsieur Goy, il m'a fait de la peine ce matin. » Écoutez, soyez sérieux. Si vous êtes des enfants spirituellement, eh bien, ressaisissez-vous et grandissez. Alors, au verset 10, à la fin du verset 10, il explique bien que c'est Jésus le fondement et qu'il faut faire attention à la manière dont on construit l'Église. Que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Verset 12. Or, si quelqu'un... Regardez bien, on parle là, il parle à des gens charnels. Les Corinthiens n'ont pas perdu le salut. Certains, oui, mais pas ceux-là à qui il parle. Si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'argent, de l'or, de l'argent, des pierres précieuses. Ces trois matériaux indiquent la spiritualité, l'or, l'intégrité, l'argent, la rédemption, les pierres précieuses, les dons spirituels. Et du bois, du foin et du chaume. Ça, bien sûr, c'est des matériaux charnels. C'est vite fait de ramasser du chaume. C'est plus facile de trouver un kilo d'or, plus difficile de trouver un kilo d'or. L'œuvre de chacun sera manifestée. Car le jour, ce fameux jour, on va comparaître devant Dieu, la fera connaître. Parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Donc il explique, dans l'église de Corinthe, vous êtes devenu charnel. Vous avez commencé à comparer les ministères, vous avez fait une erreur. Si Dieu vous a donné plusieurs ministères, c'est une grâce, il leur dit. Mais le problème, ce problème charnel, les a amenés certains à faire les choses pour les faire. Donc certains travaillaient d'une manière spirituelle, ils font ce que Dieu leur demande. Ça, c'est un sujet que j'ai souvent développé, je ne vais pas le développer ce matin, chacun devrait savoir ce qu'il a à faire. Parce que quand on va passer devant Dieu, bon là on en déduit que tout va passer devant nous, tout ce que vous aurez fait pour Dieu. La façon dont vous avez donné votre argent ce matin, peut-être que ce soir vous téléphonerez à une mamie qui n'était pas là parce qu'elle était fatiguée, vous le faites pour le Seigneur parce que vous prenez soin d'elle. Tout est enregistré. Vous le faites d'une manière spirituelle ou vous le faites d'une manière charnelle. Si vous le faites pour le faire, si vous faites quelque chose, ah ben moi je chante à la chorale, pourquoi vous chantez à la chorale? Eh bien parce que Gertrude, elle m'a dit que je chantais bien, alors je vais chanter à la chorale. Si vous chantez bien, il y a de fortes chances que vous chantiez un jour à la chorale. Mais n'allez pas chanter à la chorale parce que Gertrude vous l'a dit. Allez chanter à la chorale parce que vous avez la conviction qu'il vous faut servir Dieu dans ce ministère. Les chrétiens charnels, quand ils passeront devant Dieu, vous allez me dire, ils vont perdre la récompense. Est-ce que c'est grave ou pas? C'est une question. Est-ce que c'est grave de perdre sa récompense? Voilà. Franchement, c'est dommage. J'ai fait quelque chose, mais je l'ai fait pour le faire. J'ai donné de l'argent, mais je donnais par superstition, en espérant que Dieu serait de mon côté, ou je faisais des visites, ou alors, moi je vous assure, mais moi ça a été un problème. Il m'a fallu un gros problème physique pour comprendre ça. Parce que quand même, qu'on le veuille ou non, on a la pression des gens. On peut avoir la pression de l'Église, on peut avoir la pression des anciens. Ce n'est pas dans toutes les églises, où, comme ici, on s'encourage à faire la volonté de Dieu. Franchement, perdre la récompense, vous allez me dire, bon, si je perds que la récompense, ce n'est pas trop grave, du moment que je ne perds pas le salut. Ça tient debout. Mais enfin, quand même, si on peut avoir le salut et toutes les récompenses que Dieu vous donne, puisque Jésus a même dit que celui qui donnerait un verre d'eau froide à l'un de ses petits, il n'en perdrait pas la récompense. Le coût du téléphone à la mamie qui n'a pas pu venir, ça représente ça, un verre d'eau froide, ça ne coûte pas grand-chose de téléphoner à quelqu'un, mais c'est quand même un verre, un peu de rafraîchissement à quelqu'un. On est dans le problème, là, c'est pas trop méchant. Mais ce que l'apôtre explique, c'est que ça devient dangereux d'être charnel. Parce qu'on commence à mettre des rivalités dans l'Église, à se comparer, à critiquer. Vous allez me dire, ouais, mais c'est l'irritation, tu ne vas pas me faire un flan. Ce matin, nous avons eu un don spirituel qui nous rappelait ce qui était arrivé à Caïn. C'est sur mes notes. On va le lire, s'il vous plaît. Vous allez voir comment de charnel, on peut basculer dans l'impiété. Alors, dans la Genèse au chapitre 4, ils sont sortis de la dispensation de l'innocence, ils sont dans la dispensation du bien et du mal, de la conscience, mais est-ce qu'un homme est capable de discerner le bien du mal? Ça c'est une question qu'on peut poser puisque là on aborde le problème du bien et du mal. Est-ce que l'homme peut savoir vraiment le bien du mal? Regardez, je donne un exemple, peut-être il est sommaire, mais quand même il est intéressant. Il y a un Chinois qui a inventé la poudre. La poudre, ça a été découvert pour l'extraction du minerai dans les grottes, etc. C'est parti d'une très 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 bonne intention. C'était pour le bien. Et la poudre, vous avez vu ce qu'on en a fait. On l'a utilisé pour le mal. Je vous donne un exemple, il est simple, mais il est révélateur de ce que l'homme n'arrive pas à discerner le bien du mal. Et nous devrions nous en tenir vraiment à la parole de Dieu. Qu'est-ce que c'est qui est bien? Caïn et Abel étaient les enfants d'Adam et Ève. Ils avaient appris, c'est clair, que lorsqu'ils ont péché, eh bien Dieu avait dû sacrifier un animal pour les habiller, pour les couvrir de leur nudité, pour les sauver. Ils avaient été enseignés, et lorsqu'ils ont grandi, ils ont dû, eux aussi, offrir des sacrifices. Abel s'est appliqué, il a offert un sacrifice sanglant, un agneau qui rappelle déjà, en filigrane tout le long de la Bible, déjà la mort de Jésus-Christ sur la croix. Caïn, lui, il a voulu faire à sa façon. Est-ce que c'est par bêtise? En tous les cas, il n'a pas voulu faire comme son frère, il savait lui aussi. Et il a fait une offrande des fruits de la terre. Genèse 4, verset 4. Regardez bien mes frères et sœurs, ça commence comme ça. On est charnel parce qu'on ne discerne pas ce qui est mal. Quand c'est mal, Dieu n'exauce pas nos prières. Ça ne veut pas dire qu'on perd le salut, mais on est sur une voie archi-glissante. Genèse 4, verset 4, Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. Voilà, ça c'était la volonté de Dieu. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. On va lire le verset 3 parce que je l'ai zappé. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Qu'est-ce que c'est qui est le plus difficile à faire ? Cultiver ou sacrifier un mouton ? C'est quoi le plus difficile ? C'est cultiver. Cultiver, c'est du boulot. Hein. Si vous avez déjà fait le jardin, et si vous voulez de beaux légumes, laissez-moi vous dire, il faut s'y appliquer. Sacrifier un mouton, c'est vite fait. Donc, voyez les œuvres. Mais, verset 5, il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn, alors, quelle est sa première réaction ? Il fut très irrité. Très. Pas irrité un peu, très. Et son visage fut abattu. Bon. Jusque-là, ça n'empêche pas la communion avec Dieu. La preuve, verset 6. L'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité ? Pourquoi ton visage est-il abattu ?» Qu'est-ce que vous auriez répondu, vous ? Verset 7. « Certainement, regardez bien la délicatesse du Seigneur qui nous parle lorsque nous sommes irrités et abattus par rapport à des mauvaises réactions. Si tu agis bien, tu relèveras ton visage. » Si tu agis mal, le péché se couche à ta porte. Et ses désirs se portent vers toi, mais toi domine sur lui. Qu'est-ce qu'il aurait dû faire ? Il aurait dû, dire de suite à Dieu, « Seigneur, je te demande pardon. J'ai été irrité. Oui, je suis abattu parce que je suis jaloux, parce que tu n'approuves pas mon offrande. Pardon, la prochaine fois, mais l'an prochain, je t'offrirai un agneau. » C'est pas ça qu'il aurait dû faire ? Ben voilà. Et le problème était réglé. Mais c'est sûr, croyez, si vous connaissez Dieu, vous savez que c'est vrai. Cependant, verset 8, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Ça n'a pas dû bien se passer. Mais comme il était dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. L'Éternel dit à Caïn, alors est-ce que Dieu savait où était son frère ? Mais Dieu, quand il pose les questions, mes frères et sœurs, c'est souvent un élément pour retrouver la communion avec quelqu'un. Comme Dieu sait très bien où est Abel et Caïn, Abel. Les questions du Seigneur, ça veut pas dire que Dieu ignore. Ça veut dire que Dieu veut rétablir la communion. Où est ton frère, Abel ? Il répondit, je sais pas. Voyez la perception qu'il avait de ce Dieu tout-puissant. Vous savez, quand on commence à croire que Dieu ne sait pas les choses, laissez-moi vous dire que vous n'avez pas une bonne perception de Dieu. Dieu, il sait tout. Tout. C'est comme ça. Suis-je le gardien de mon frère ? En plus, vous voyez, il commence à lui poser des questions. Vous voyez ? Eh bien, oui. Et Dieu dit, qu'as-tu fait ? Et vous connaissez la suite. Verset 11. Maintenant, tu seras maudit de la terre. La fin du verset 12. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Et il s'est perdu. Vous voyez, mes frères et sœurs, quand on est charnel, on devrait... Mais c'est vrai. Mais on devrait être honnête, mes frères et sœurs. Est-ce que je fais du mal ? Est-ce que je te fais du mal ? Si vos enfants vous disent, mais papa, tu sais, tu es désagréable. Tu m'as fait du mal. Ça m'a fait du mal. Mais demandez pardon. Oh, tu étais une petite... Comment on appelle ça ? Une petite nature. Il te faut te bouger. Il te faut t'endurcir. Ah, mais t'as vu ça où ? La face du Seigneur, elle est contre ceux qui font le mal. J'ai fait ce qui est mal. J'ai mal parlé au pasteur stagiaire. Qu'est-ce que je vais faire ? Je parle mal à un pasteur stagiaire. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Oh, c'est qu'un stagiaire... Peut-être il en avait besoin. Ils ont besoin d'apprendre. Vous croyez que c'est comme ça que ça marche ? Mais si on ne sait même pas, c'est écrit, ils ne savent pas qu'ils font le mal. Mais mes frères et sœurs, on devrait vraiment s'interroger. Et si nous sommes charnels, nous devrions dire, mais c'est vrai, je réagis au quart de tour, je m'énerve pour rien, je m'irrite dès qu'il y a un truc qui me contrarie. Seigneur, je vais régler cette affaire. Je vais le régler. Et je vais demander de l'aide auprès des gens qui m'aiment. Mais de toute façon, je sais que certains le feront ici. Parce que je sais que vous m'aimez. Et ça, ça me touche vraiment. Ma femme s'en charge, c'est vrai. C'est vrai qu'au moins, je n'ai pas besoin de lui demander. Et je la remercie vraiment. Merci Isabelle, vraiment. Merci mes enfants. Les enfants, par contre, vous pourriez mettre un peu plus de les gants. Voilà. Vous l'avez entendu, ça ? Mais mes frères et sœurs, vous ne croyez pas que ça vaut la peine de s'exhorter les uns les autres, de veiller les uns sur les autres, de s'aimer les uns les autres, de s'apprécier les uns les autres. Vous avez vu Caïn, Dieu s'approche de lui. Vous vous rendez compte, le Seigneur s'est approché de lui. Et lui, il n'a pas trouvé mieux que cette irritation l'amène à la jalousie. La jalousie l'a amené au meurtre. Oh, monsieur Gaubet, moi je ne suis pas un meurtrier. Je ne suis pas là. Mais s'il n'y avait pas des prisons, je me demande combien de gens mourraient le lendemain. Si on ne mettait pas en prison les gens qui sont devenus des assassins, si on disait demain, voilà, il y a une nouvelle loi, vous pouvez tuer quelqu'un, ça sert, ça, vous n'aurez aucun problème. Est-ce que vous pensez qu'il y aurait beaucoup de chômage demain ? Non. Mais la Bible va plus loin. La Bible dit que celui qui n'aime pas son frère, il est comment ? C'est un meurtrier. Donc nous devrions, mais vraiment avec souci, mais est-ce que ça c'est mal? Est-ce que je parle mal? Mais il y a des gens, ils sont tellement difficiles. Ils ont la Bible parle de ceux qui ont un caractère difficile. Quelqu'un qui a un caractère difficile, c'est très difficile de le reprendre. Pourquoi? Parce que si vous le reprenez, ça va empirer. Alors si vous êtes chrétien, un vrai chrétien, c'est-à-dire quelqu'un qui pratique la justice, que le juste pratique encore la justice. Acceptez les reproches. Acceptez que la personne qui vous aime le plus puisse vous dire, tu sais, je trouve que tu t'irrites. Tu devrais demander pardon. À qui ? Mais déjà à Dieu. Mais peut-être veiller à la façon dont on apprécie les gens qui nous font des reproches. Oui ou non ? Moi, dernièrement, on m'a fait 3 reproches. 3. Un pasteur stagiaire, mon fils. Merci Lucas. Ça me fait souvent rire. Et un frère qui l'a fait de manière très souple. Bon, Jeanson, merci. Merci vraiment. Parce que je sais que vous m'aimez. Est-ce que mes frères et sœurs, nous voulons être prêts quand Jésus va revenir ? Mes frères et sœurs, est-ce que nous voulons être prêts ? La face du Seigneur, elle est contre ceux qui font le mal. Que celui qui se souille encore. On voit cette sévérité du Seigneur, et en même temps cet éclairage, que celui qui veut se souiller, il se souille. Mais mes frères et sœurs, nous devrions absolument avoir cette grâce dans une église où on a des frères, des sœurs, des amis, de pouvoir dire, est-ce que, oui, je suis prêt, dis-moi vraiment. Mais faites, alors, je vais en profiter. Ne faites pas pire que lui. Ne réglez pas, on ne fait pas ça pour régler des comptes. Parce que là, si on fait ça pour régler des comptes, ils ne vont même rien dire. Mais si on a l'amour dans le cœur, vraiment cet amour, Seigneur, je ne veux pas être charnel. Bien sûr, oh, mais tu peux t'irriter, ce n'est pas grave, tout le monde s'irrite. La Bible dit que... Mais on va terminer quand même avec ce verset. Mais j'aimerais vraiment que vous méditiez ces textes que vous connaissez par cœur, dans le psaume 37. Mais c'est grave, mes frères et sœurs. Moi, je sais que dans cette église, il y a certainement des gens qui sont concernés, qui ne le savent même pas. Regardez dans le psaume 37, mais prenez la concordance et faites une étude, vous en avez pour 3 mois. Alors, psaume 37, on va lire 8 versets, voilà. On va terminer en lisant ces versets qu'on connaît par cœur. Enfin, on connaît par cœur. Nous, on connaît le verset 4 par cœur. Celui-là, on l'a mis sur les versets, sur les posters. Celui-là, on le connaît. On le connaît, il est bien. Mais ce n'est pas le verset 4 qui devrait nous interpeller, c'est les autres. Parce que le verset 4 dépend des autres. Est-ce que vous comprenez ? Ne t'irrite pas contre les méchants. Je répète, les méchants, ce sont les chrétiens qui n'ont pas de communion avec Dieu. Quand il est dit que le méchant retourne à Dieu, ça veut bien dire qu'il y était venu. Donc les méchants dans la Bible, je vous le répète pour que ce soit bien clair, ce sont les chrétiens qui n'ont pas de communion avec Dieu. Et c'est vrai que c'est pénible des gens, des chrétiens qui ont mauvais témoignage. Mais la Bible dit, ne t'irrite pas contre les méchants, n'envie pas ceux qui font le mal. Car ils sont fauchés aussi vite que l'herbe, ils se flétrissent comme le gazon vert. Confie-toi en l'Éternel, pratique le bien. Et le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Alors là, maintenant, il y a une conséquence. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Amen. Vous le croyez, ça? Ou c'est une plaisanterie? Vous le croyez que Dieu peut vous donner ce que votre cœur désire? Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Vous savez, des fois, ce n'est même pas la peine d'en parler à personne. Si c'est utile de parler pour savoir, il y a des fois, il vaut mieux en parler qu'à Dieu seul. Croyez-moi. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. Garde le silence devant l'Éternel, espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies. Vous voyez, on peut s'irriter contre les méchants, mais aussi on peut s'irriter parce que quelqu'un a plus que nous. Contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins, laisse la colère, abandonne la fureur. Ne t'irrite pas, ce serait mal faire. Et on pourrait prendre avec une concordance, mais faites-le. Vous voyez, quand les gens prient, je pourrais multiplier l'exemple, quand il est dit, quand Jésus nous enseigne à prier, délivre-moi du mal ou du malin, de toute façon c'est lié. Délivre-moi, le Notre Père, vous connaissez? Délivre-moi du mal. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, délivre-moi du mal. Je fais le mal. Vous comprenez, frères et sœurs? Oui, Noël, merci Seigneur. Merci Seigneur pour les attributs de notre Sauveur et de notre Maître. Le grand Dieu de l'univers qui va bientôt nous prendre dans les cieux, dans notre ville, dans notre grande et belle ville tout en or. Mais franchement, ça serait malheureux que plusieurs parmi vous ne sachent même pas que vous êtes en train de vous perdre. Parce que l'aspect charnel a été accepté. Quand on est charnel, on doit réagir et dire pardon. Si Caïn était parti en courant, vite, vite, Seigneur, j'ai compris, je vais voir mon frangin et je vais lui demander pardon. C'était réglé. Pardon. Ouais, il y aura des vierges sages, il y aura des vierges folles. Les folles, ce sont tous les chrétiens qui ne sont pas sérieux avec ce que vous entendez ce matin. Oui, un chrétien peut perdre le salut, mes frères et sœurs. Alors que dans l'église où Dieu nous a placés, nous soyons tous bénis. Les yeux du Seigneur veillent sur ces chrétiens. Les oreilles du Seigneur sont attentives à leurs prières. Eh bien, on va le prier. Vous êtes d'accord? On va le prier réellement, sincèrement. Pas parce qu'il faut conclure, parce qu'on a l'habitude de conclure le culte par une prière. C'est une prière de conclusion? Non, c'est pas une prière de conclusion, surtout pas. C'est une prière. Est-ce que vous voulez la faire, cette prière? Est-ce que nous voulons demander de l'aide au Seigneur? Est-ce que vous êtes prêt à dire, oui, je me tairai. Si mon épouse, si mon mari, si mes enfants me font des reproches, je leur demanderai pardon, je vais pas jouer dans la cour de Caïn. Je vais bien réagir. Et même si ce n'était pas tout à fait vrai, je vais bien réagir quand même. Notre Père, oui, quelle grâce que tu aies institué la prière. Seigneur, quelle faveur n'as-tu pas accordé aux hommes de pouvoir te prier? Nous, les pécheurs sauvés par grâce, n'importe où, n'importe quand, pouvoir s'approcher du trône de la grâce et d'obtenir miséricorde, grâce et secours. Seigneur, ensemble, nous te demandons cette intelligence, ce discernement, cette sagesse, ces aptitudes qui feront que, jeunes ou vieux, nous ne nous laisserons pas piéger par des comportements charnels. Seigneur, ce que nous voulons, c'est être spirituels. Terminer l'année en portant du fruit. Nous ne voudrions pas faire partie de ces vierges folles qui réaliseront la seconde de l'enlèvement qu'elles n'étaient pas prêtes. Épargne-nous cela, Seigneur. Et si quelqu'un dans ce auditoire ou sur Internet est concerné par cette affaire, Seigneur, donne-lui des oreilles spirituelles, des yeux spirituels, un cœur spirituel, afin que nous sachions comprendre ce qui est bien et ce qui est mal. Seigneur, pardonne-nous pour toutes les fois où nous avons cautionné le mal. Donne-nous de n'aimer que le bien et de nous abstenir, comme nous l'avons lu, de toute forme de mal, dans nos propres vies, dans nos foyers, dans nos maisons, avec nos enfants, avec nos employeurs, avec nos employés, avec nos frères, dans ta maison. Donne-nous, Seigneur, de travailler avec de l'or, de l'argent et des pierres précieuses qui feront que lorsque nous nous présenterons devant toi, ce que nous aurons fait ne se consume pas, mais puisse être éclairé par ta lumière. Nous savons que c'est ta volonté. Alors Seigneur, que ta volonté soit faite. Que ton nom soit béni, Seigneur. Et délivre-nous du mal. Merci Seigneur Jésus. Amen.